Les informations avec Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Dans l'actualité, les Algériens qui manifestent à nouveau cet après-midi dans la capitale, dans un contexte tendu, les tentatives pour régler la crise sont dans l'impasse, notamment l'instance de dialogue censée préparer la présidentielle. On sera à Alger avec Leïla Berhatou. Le commerce mondial dans la tourmente, alors que la guerre commerciale est relancée entre la Chine et les États-Unis. En Asie, c'est le conflit Japon-Corée du Sud qui prend de l'ampleur. Les deux pays prennent des mesures pour limiter leurs échanges. L'OTAN redoute désormais une reprise de la course aux armements entre les États-Unis et la Russie après le retrait de Washington du traité de désarmement nucléaire INF, un accord historique qui permettait d'assurer la stabilité mondiale depuis la guerre froide. Correspondance au siège de l'OTAN à Bruxelles de Lakshmi Lotha. La colère n'est pas retombée après la mort de Steve Maya Caniço, manifestation qui s'annonce tendue demain à Nantes et cet après-midi midi à Paris, un rassemblement était organisé aux abords du siège de l'IGPN pour dénoncer les violences policières. Nous verrons que certains n'hésitent plus à comparer Steve Caniço à Malik Oussekine ou bien à Rémi Fraisse. Les forces de sécurité déployées en très grand nombre cet après-midi dans les rues d'Alger. 24e vendredi de manifestation contre le régime algérien. Et si le pouvoir a dépêché autant de policiers dans le centre de la capitale, c'est parce que depuis quelques jours, la tension monte autour de l'instance de dialogue qui a été mise en place pour tenter de régler la crise et préparer la prochaine présidentielle. Constituée de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles, ce panel doit notamment permettre d'ouvrir les négociations entre la société, l'opposition et les autorités. Mais depuis dimanche dernier, l'instance de dialogue est allée de déconvenue en déconvenue. À Alger, explication de Leïla Berhatou.
Nommé jeudi dernier, le panel des 6 personnalités pour le dialogue avait assuré à l'opinion publique qu'il commencerait par demander des gestes de bonne volonté de la part des autorités. Ce jour-là, le président par intérim assurait qu'il accueillait favorablement cette demande qui concerne entre autres la libération des personnes en détention provisoire pour avoir porté un drapeau berbère et la réduction du dispositif sécuritaire dans la capitale lors des manifestations. Seulement mardi, le chef d'état-major, Ahmed Gaït Salah, a mis un coup d'arrêt à tous les espoirs, déclarant que ces demandes étaient des diktats et alors que deux manifestants en détention provisoire avaient été libérés dans la wilaya de Chlef, le ministre de la Justice a lui été limogé. Douche froide donc, y compris pour le panel, déjà très critiqué par l'opinion publique, il en sort encore plus fragilisé. L'économiste Smaïl Lalmas démissionne dans la foulée, expliquant qu'il n'y a pas eu de réponse aux revendications populaires. Jeudi, le représentant du panel, Karim Younes, ancien ministre et ancien parlementaire, démissionne puis change d'avis. Les personnalités qui doivent conduire le dialogue assurent qu'elles poursuivront leur mission, mais moins d'une semaine après sa création, le panel a perdu en crédibilité aux yeux des manifestants.
Correspondance de Leïla Berhatou à Alger. En Tunisie, la présidentielle, ce sera le 15 septembre prochain. Scrutin anticipé pour remplacer le président Essebsi, décédé à la fin du mois de juillet. Le dépôt des candidatures a démarré ce matin. Il doit se poursuivre jusqu'au 9 août. 8 candidats sont déjà venus présenter leur dossier au sein de l'instance indépendante chargée des élections. 7 hommes et une femme. Nadine Epstein.
L'ICI, l'instance supérieure indépendante chargée des élections tunisiennes, de la présidentielle avancée au 15 septembre, suivie des législatives le 6 octobre, n'a donné qu'une semaine aux candidats au poste suprême pour se décider. Le calendrier serré, dicté par la légalité. Le mandat du président du Parlement, qui assure l'intérim de la présidence, Mohamed El Nasser, ne peut dépasser 90 jours et se termine donc au plus tard le 23 octobre. Entre-temps, les 7 millions d'électeurs tunisiens auront choisi leur chef d'État et les députés. Mais les campagnes électorales qui seront courtes risquent d'obliger les principaux partis présents au Parlement à des alliances, notamment pour le scrutin du mois prochain, dont les résultats, premier voire second tour, influenceront les législatives d'octobre. Les spéculations sur les candidats à la présidentielle vont de l'ancien président Moncef Marzouki au premier ministre Youssef Chahed, en passant par le ministre de la Défense ou l'ancien premier ministre Mehdi Jomar. Depuis ce matin, 8 candidatures ont été déposées, dont 2 qui font polémique. L'homme d'affaires et mania des médias Nabil Karaoui, qui se présente comme le représentant des plus démunis, mais qui a été récemment inculpé pour blanchiment d'argent, et une nostalgique du parti dissous du dictateur déchu Ben Ali, qui veut exclure les islamistes d'Annada.
Merci Nadine Epstein. La guerre commerciale entre Chine et États-Unis semble bien repartie. Les autorités chinoises promettent ce soir des représailles contre Washington après les menaces de Donald Trump. Le président américain avait évoqué hier la possibilité d'étendre les droits de douane à tous les produits chinois importés par les États-Unis. Grosse inquiétude des principales places boursières de la planète qui ont chuté aujourd'hui. D'autant que ce conflit commercial, avec des retombées mondiales, n'est pas le seul en ce moment. La Corée du Sud et le Japon sont également en plein conflit. Les deux géants asiatiques prennent chacun des mesures aujourd'hui pour limiter leurs échanges. Le gouvernement japonais a décidé de supprimer la Corée du Sud de sa liste des partenaires de confiance. Séoul a promis de répondre. Correspondance en Corée de Louis Paligiano.
Notre gouvernement fera face à la mesure injuste du Japon avec une attitude ferme, a déclaré la présidente sud-coréenne en réponse à la décision de Tokyo d'imposer de nouvelles contraintes commerciales envers la Corée du Sud. Le mois dernier, le gouvernement japonais avait déjà imposé des restrictions d'exportation de composants chimiques indispensables à la production de matériel high-tech. Une mesure décidée après que la Cour suprême sud-coréenne a ordonné à des entreprises japonaises d'indemniser les victimes sud-coréennes du travail forcé lors de la colonisation de la péninsule. La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-hwa, a pour sa part dénoncé une mesure décrétée de manière très unilatérale et arbitraire. À l'issue d'une discussion tenue hier avec son homologue japonais, Kang avait averti que la Corée du Sud pourrait remettre en question le renouvellement de l'accord de sécurité générale d'information militaire signé avec le Japon si Tokyo décidait de retirer la Corée du Sud de sa liste blanche. Cette décision fait donc craindre qu'une détérioration des relations déjà tendues entre Séoul et Tokyo puisse avoir un impact négatif sur leur coopération en matière de sécurité, alors que la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles.
Louis Paligiano, correspondant de Radio France Internationale en Corée du Sud pour France Culture. Est-ce une menace pour la stabilité mondiale? En tout cas, le désarmement nucléaire acquis depuis la guerre froide par les États-Unis et la Russie est en train d'être remis en cause. Les États-Unis ont confirmé ce matin leur sortie officielle du traité de désarmement INF, traité pourtant historique, conclu donc pendant la guerre froide. Washington estime que les Russes ne respectent plus aujourd'hui cet accord en fabriquant des missiles prohibés par le traité. Voilà qui risque de relancer la menace donc aux armements, la course aux armements. L'OTAN a réagi cet après-midi depuis Bruxelles en mettant clairement en cause la Russie. Le compte-rendu de Laxmilota.
La Russie porte l'entière responsabilité de l'extinction du traité, affirme l'Alliance, soutenant pleinement la décision des États-Unis de se retirer du texte. Toutefois, le secrétaire général de l'OTAN se positionne contre toute nouvelle course aux armements. Face à la menace de missiles russes à portée intermédiaire, les alliés resteront mesurés. Jens Stoltenberg.
We will continue to make sure that we find the right balance between being strong, providing credible deterrence and defense, but without overreacting or rushing to conclusions.
Les nouveaux missiles russes sont capables de transporter des têtes nucléaires et de frapper les villes européennes en quelques minutes, a expliqué le secrétaire général de l'OTAN. Jens Stoltenberg estime qu'un nouveau traité est possible, comme cela a déjà été le cas dans le passé.
Nous allons continuer à trouver un juste équilibre. Nous devons avoir une force de dissuasion crédible, mais nous devons aussi ne pas surréagir, ne pas prendre de décisions hâtives dans ce contexte.
Ce traité, aujourd'hui enterré, avait permis l'élimination de tous les missiles nucléaires américains et russes à portée intermédiaire sur le sol européen. Le monde perd un outil précieux contre la guerre nucléaire, a regretté dès hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il ne reste désormais en vigueur qu'un seul accord nucléaire bilatéral entre Moscou et Washington, le traité START, qui arrive à échéance en 2021.
Laxmilota à Bruxelles. L'Arabie Saoudite fait un pas de plus pour améliorer les droits des femmes avec la fin du principe du tutorat masculin pour les femmes saoudiennes désireuses de se rendre à l'étranger. Jusqu'ici, les femmes devaient avoir une autorisation de leur mari ou d'un parent masculin pour obtenir un passeport. Ce n'est désormais plus le cas. En France, la possibilité de dépayser l'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso à Nantes avait été évoquée ces derniers jours. C'est dans cette optique que les deux juges d'instruction chargés de l'enquête ont demandé cet après-midi à être dessaisis. Demain s'annonce comme une journée très tendue à Nantes. Des rassemblements sont prévus pour rendre hommage à Steve. La préfecture a interdit certains secteurs du centre-ville. Et cet après-midi, c'est à Paris qu'une manifestation était organisée. Aux abords du siège de l'IGPN, la police des polices, qui, on le sait, a totalement dédouané les forces de l'ordre dans cette affaire. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir.
Alors, manifestation pour rendre hommage à Steve, mais plus globalement pour dénoncer les violences policières.
Oui, un peu moins d'une centaine de manifestants réunis cet après-midi pour demander justice pour Steve, mais aussi et surtout pour crier leur colère contre l'ensemble des violences policières, comme Pascal, un retraité.
Le déclencheur, c'est évidemment toute l'actualité qui tourne autour de Steve, qui lui ne demandait rien à personne. On ne sait pas encore pourquoi ni comment, mais toujours est-il que lui, il est mort et qu'il n'était pas venu pour ça, et que pour moi, c'est inadmissible. Voilà, ensuite, j'ai une réflexion plus large sur les enquêtes de l'IGPN. Je pense que depuis le mouvement des Gilets jaunes, depuis aussi toutes les méthodes policières qui sont pratiquées sur les quartiers populaires, on se retrouve aujourd'hui avec des dizaines de victimes.
Dans le cortège des slogans, castaner démission, des sifflets et des hymnes de gilets jaunes, Jean-Christophe en fait partie depuis le 17 novembre, le début du mouvement. Il est naturellement venu en jaune pour dénoncer.
Les arrestations arbitraires qui se passent sur Paris, les sanctions abusives que nous subissons lorsque nous portons le gilet jaune, et simplement l'ensemble des enquêtes qui sont faites, qui n'aboutissent pas vis-à-vis des policiers qui abusent un peu de leur pouvoir.
Pendant plus de deux heures, les manifestants ont enchaîné les prises de parole en dénonçant l'impunité de la police, protégée selon eux par l'IGPN. La police des polices qui a conclu cette semaine que la mort de Steve n'était pas liée à la charge des forces de l'ordre. Il aurait pu tomber dans la Loire avant les affrontements. Adama Traoré fait partie du collectif La Révolution en Marche qui organise le rassemblement. Cette version, il n'y croit pas du tout.
Comment se fait-il qu'auparavant il n'y ait jamais d'histoire ? Ça soit la Garonne, la Loire, la Seine, peu importe les fleuves qu'on a en France, depuis 20 ans il n'y a jamais eu d'histoire. À un moment donné, il y a une charge policière qui a ramené un mort, c'est clair. Et nous, par A plus B, on va le prouver, on va le créer haut et fort, tous les vendredis devant l'IGPN, jusqu'à on soit reçu soit par le Premier ministre, soit par le Président de la République.
Le collectif parisien qui entend donc revenir chaque semaine manifester jusqu'à ce que justice soit faite.
Merci Lisa Guyenne. Et depuis la découverte du corps de Steve Maya Canisso, le gouvernement est très critiqué. L'affaire a désormais pris une ampleur nationale. Le cas de Steve Maya Canisso est même comparé à celui de Malik Houssekine. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Est-ce que la comparaison est justifiée ?
Alors comparer ces affaires, c'est déjà s'avancer sur les conclusion de l'enquête pour homicide involontaire, partir du principe que, sans l'intervention de la police, Steve Maya Canisso serait encore en vie. Cette comparaison un peu précipitée nous rappelle surtout à quel point l'affaire Malik Houssekine a profondément et durablement marqué la société française. Ce jeune homme sans histoire avait été traqué en décembre 86 par une brigade de police motorisée dans un contexte de manifestation étudiante alors que lui-même ne manifestait pas. Il avait été tabassé à mort dans un hall d'immeuble par des voltigeurs devant un témoin direct. Les conséquences politiques et judiciaires avaient été rapides et considérables. Démission dès le lendemain du ministre de l'Enseignement supérieur, Alain Devaquet, projet de loi réformant l'université retiré, dissolution des voltigeurs, deux d'entre eux condamnés à de la prison avec sursis. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, personne n'a démissionné pour le moment. Les réactions politiques semblent confuses et la machine judiciaire hésitante. L'affaire Steve Maya Canisso a mis beaucoup plus de temps à éclore que l'affaire Malik Houssekine. Son corps n'a été retrouvé que lundi dernier, soit 5 semaines après sa disparition. 5 semaines d'incertitude pendant lesquelles peu de caciques de la majorité comme de l'opposition se sont risqués à évoquer ce dossier. Et quel sens donner à une intervention de police lors d'un rassemblement festif éloigné de toute considération politique ? La crainte du gouvernement, c'est que cette tension contenue pendant 5 semaines ne déborde subitement demain lors du rassemblement prévu à Nantes. Son mot d'ordre pour Steve est contre les violences policières. Ce rassemblement n'a pas reçu le soutien de la famille de Steve Maya Canisso. Et les appels à manifester se sont multipliés ces derniers jours, pour ce week-end également dans les villes de Caen, Le Havre, Montpellier, Paris, Tours et Rouen.
Merci Antoine Marette. Énormément de monde en ce mois d'août au musée du Louvre à Paris qui est victime de son succès pour éviter les embouteillages et les files d'attente de plusieurs heures. La direction du musée incite fortement les visiteurs à réserver en ligne. La réservation en ligne qui deviendra obligatoire au Louvre avant la fin de l'année. Les prévisions de Météo France pour demain, un temps global globalement ensoleillé, sauf sur les côtes de la Manche. Les températures, l'après-midi, 23 degrés à Bordeaux et 31 à Toulouse.